Bonjour à tous. Content de vous voir là ce matin, fidèle, parce que le message de dimanche dernier était question de fidélité. Il était question que Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Donc, content qu'il y ait ce matin parmi nous des hommes et des femmes fidèles. Il a été aussi dit que être fidèle, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire, et que le fidèle devait dénoncer et avertir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que Dieu nous demande à tous de faire. Je ne sais pas si je vais dénoncer ou avertir, ou si je vais dénoncer et avertir. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui convaincra, je veux le croire. Alors, je trouve mes petits papiers, ça va venir. Oui, première question. Donc, le message de ce matin, le titre, prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Une question. Vous sentez-vous aimé et accepté dans l'Église? Êtes-vous obligé d'accomplir des actes spirituels pour être aimé? Le message que vous percevez, qu'il soit exprimé ou non, vous presse-t-il de faire davantage d'efforts pour vous améliorer? Lorsque nous croyons au sacrifice de Jésus pour nous donner la vie, nous pénétrons dans un monde nouveau, un monde où luit la lumière de l'amour. Malheureusement, le besoin de contrôler, de s'imposer, d'avoir le dernier mot provoque de nombreuses tensions dans la communauté. Pour que la haine tombe, pour que les divisions et les conflits cessent, pour que les murailles de séparation s'écroulent, on ne peut compter que sur la puissance de l'amour. L'amour agapé, c'est ce qui manque aux humains pour que tout fonctionne bien. Car nos sentiments ne sont pas toujours en harmonie avec les caractères de Dieu, il faut se le dire. C'est pourquoi j'ai titré ce message, prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Alors ce matin, prenons la chose à cœur. Dieu nous donne le commandement d'aimer. Comment mettre cet amour en mouvement? Je crois que la parole de Dieu, la Bible, est puissante pour nous conseiller et nous éclairer sur la question. Car tout esprit sincère reconnaît que la Bible est l'expression du Dieu qui se révèle pour nous remplir de son amour dans le but d'aimer en retour. Je souhaite ce matin vous parler comme annonçant les oracles de Dieu. Prenez la chose à cœur. Deux références pour étayer et construire un petit peu ce que je veux partager avec vous ce matin. Ce sera Romains 5, verset 5, et 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 et 8. Brièvement, nous verrons que l'amour est un trésor dans nos vies, que rien n'existe sans amour, que l'amour est pratique, il se plaît à oublier le mal, que c'est la plus grande chose au monde, et enfin, que nos œuvres expriment l'amour. Lisons maintenant Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Pierre 4, verset 7, mais c'est surtout le verset 8 qui m'intéresse. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, un trésor dans nos vies. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ayez avant tout les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque l'amour de Dieu est déversé dans un cœur, c'est une vie transformée pour lui ressembler en ayant un ardent amour pour les autres. C'est en aimant que les vrais chrétiens se font reconnaître. L'amour de Dieu en nous n'a de sens véritable que si elle est partagée avec les autres, avec ceux que Dieu a placés autour de nous, comme ce matin, tous ceux qui sont autour de nous. Si cet amour n'est pas partagé, ce n'est pas le véritable amour. Ce ne sont ni les choses, ni notre position dans l'Assemblée qui procure une quelconque joie ou sentiment profond de complétude, mais les autres qui vont être une autre réelle bénédiction. Il y a une puissance de force de protection dans nos relations et en chacun de nous, il y a un trésor, un appel à une bénédiction qu'il faut découvrir. S'en priver, c'est littéralement choisir de se mutiler. Et un corps qui n'est pas uni, il ne va nulle part. C'est pourquoi Satan fera tout pour tenter de développer les divisions et les désaccords entre les membres. Prenez la chose à cœur. Nous ne pouvons trouver la solidité exclusivement dans nos connaissances intellectuelles de la Bible. Il faut de la pratique. Car ni l'œil, ni le pied, ni l'oreille ne sauraient prétendre être complets sans les autres parties du corps. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, 7, nous fait comprendre qu'il y a un trésor dans chaque vase de terre que nous sommes, la lumière et la grâce de l'Évangile. Bien entendu, sans Christ, nous manquons l'essentiel. Mais sans ce que Dieu a prévu pour nos vies, nous restons partiels. Si nous apprenons à considérer cela, nous pourrons aimer les gens que Dieu a mis à côté de nous et nous aurons accès à ce que Dieu a mis à placer en eux. Aimer les autres, c'est avoir accès au trésor caché en eux. L'Église qui n'est pas en bonne santé spirituelle constitue un problème important pour recevoir les bénédictions de Dieu. Mais si nous lui donnons la possibilité, Dieu peut changer radicalement les situations les plus désespérées. Apprenons à chérir ce que Dieu a placé autour de nous. Le Seigneur veut que nous expérimentions la grandeur et la profondeur de son amour. Relisez les évangiles et essayez de visualiser tout ce que Jésus a fait pour vous. Lorsqu'une personne voit l'amour de Dieu se manifester de manière pratique, cela crée de très belles occasions de partager l'unité. Que nos paroles soient suivies par nos actes. C'est la loi universelle appelée le principe des semailles et des moissons. Deuxièmement, rien sans amour. Aimer le Seigneur et son prochain, il n'y a pas de plus grand commandement, nous dit Marc 12, versets 30 et 31. Un homme, une femme pourrait avoir tous les dons spirituels sans amour. Il est semblable à un airain qui résonne ou à une cymbale qui retentit. Dénué d'amour aboutit à l'échec. Les chrétiens donnent le ton spirituel à l'Église. S'ils aiment Dieu et leur prochain, leurs femmes, leurs maris et leurs enfants aimeront à leur tour Dieu et leur prochain. Beaucoup de personnes sont insatisfaites de l'Église locale, mais en ignorent la raison. En regardant l'Église de Corinthe, on peut soupçonner que dans de nombreux cas, le manque d'amour courant est à l'origine d'une vaste palette de problèmes. Sans amour, nous ne pouvons vivre et agir en harmonie. Une vraie compréhension de ce que la Bible dit concernant l'amour améliorerait le relationnel et augmenterait l'efficacité de l'Église. Il est inutile de vouloir travailler dans l'Église sans amour. L'œuvre de Dieu ne peut se faire sans amour. À la lecture de 1 Corinthiens 12, verset 31 jusqu'au chapitre 13, verset 3, on sent que Paul se sert de toute son habileté rhétorique pour faire comprendre avec éloquence et force que l'amour est la voie par excellence. La méditation attentive de ce passage est censée susciter un écho chez tout chrétien raisonnable. Sans amour, même le langage céleste est agaçant. Toutes les connaissances réunies ne servent à rien. Je peux prendre tous les risques, donner tout mon argent, sacrifier ma propre vie. Cela me servirait strictement de rien. D'où l'équation don moins amour égale zéro. Sans amour, nos dons les plus extraordinaires et nos performances les plus remarquables sont stériles pour l'Église de Dieu. On pourrait citer Apocalypse 2 où il fait mention de l'Église d'Éphèse qui était sur le point de mourir par manque d'amour. Leur amour avait diminué et c'était visible jusque dans leurs œuvres, nous dit ce chapitre d'Apocalypse. Si bien que le Seigneur dut les exhorter à se repentir et à laisser le souffle vivifiant de l'amour pénétrer à nouveau dans le corps ecclésial. Le manque d'amour est mortel. C'est un cancer qui a le pouvoir terrible de se répandre dans la famille spirituelle, car nous formons un corps. Il se peut qu'il tue lentement, mais il finit toujours par tuer. Je répète, le manque d'amour, il se peut qu'il tue lentement, mais il finit toujours par tuer. Retenez ceci. Lorsqu'il n'y a pas de véritable amour, il est impossible de prier dans l'unité. Quand vous constatez un manque d'amour quelque part, cessez toute activité et mettez-vous en règle aussi vite que possible avant que le Seigneur ne juge. Et comment se mettre en règle? Quelle réaction adéquate? Eh bien, nous le trouvons aussi dans ce chapitre de l'Apocalypse 2, au verset 5. Il nous dit trois choses. Souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxièmement, repens-toi. Et troisièmement, pratique tes premières œuvres. Le refus de réagir plongerait l'Église dans le désastre. Il est écrit concernant Éphèse, « Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. » Vous savez ce que ça veut dire? Ôter le chandelier, c'est mettre fin à l'existence. Ensuite, un amour pratique. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement la fidélité doctrinale, mais aussi notre amour jour après jour. Et bien sûr, pas en théorie, mais en pratique. Il faut se garder d'une piété de façade qui consiste à se contenter des formes extérieures de rites religieux et à négliger les éléments vitaux de l'amour pour Christ et de l'amour mutuel. L'amour est au cœur de l'Évangile, c'est la force motivante indispensable pour tout, à tout service chrétien. L'amour a poussé Dieu à offrir son Fils pour notre salut. Fasciné, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, dira « L'amour de Christ nous presse, car l'amour était la raison de tout ce qu'il accomplissait. » Donc, je dirais, si notre façon de faire est motivée par l'amour de Dieu, est motivé par l'amour pour Dieu et pour Christ, nous sommes le plus agréable à Dieu et le plus efficace dans notre ministère auprès des gens. L'amour pour Christ et l'amour de Christ, c'est le point de départ essentiel à tout service chrétien. L'amour est la clé de toute chose. C'est une qualité qui compense largement nos insuffisances. Il tue l'égoïsme détestable qui enveloppe tout ce qui est humain. C'est l'amour qui attirait les foules vers Christ, pas les cérémonies, pas les règles, pas les coutumes, ni même les doctrines. Un leadership motivé par l'amour aura un impact certain, car les gens ont soif d'amour. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens, oui, dans la Bible, n'est pas un discours théorique de l'amour. Ces paroles de l'apôtre Paul, de Paul, apôtre, pasteur et enseignant à la fois, constituent un élément crucial de ses instructions et avertissements à une église déchirée par des comportements dénués d'amour. Pour aider les Corinthiens à comprendre leur manquement et la voie par excellence, Paul a donné 15 descriptions de ce qu'est l'amour et de ce qu'elle n'est pas. De ce que fait l'amour et de ce qui ne fait pas. Ce sont 15 traits de caractère qui correspondent admirablement à la nature et au comportement du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. Les voici donc, notons-les. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, vantard, orgueilleux, malhonnête, égoïste, irritable, soupçonneux et heureux de l'injustice. Ce que l'amour fait, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Celui qui affirme être en Christ est contraint à manifester ces mêmes attitudes dans sa vie et dans son ministère. Tous ces traits de caractère déterminent notre nouvelle nature et valident notre service chrétien. Nous devons nous rendre recommandables à tous égards, particulièrement dans l'amour sincère, afin que l'Église ne soit pas un objet de blâme. Selon un vieux dicton, quand on renverse un vase, ce qui se répand, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les petits désagréments ou contrariétés n'irritent pas facilement les personnes aimantes. L'amour patient peut supporter longtemps le mal infligé par les autres. Nous sommes appelés donc à avoir un amour sincère, pur et fervent pour les autres, par-dessus toute autre chose. Si nous devions ne réussir qu'une seule chose dans notre vie, cela devrait être d'aimer les autres. Marcher dans l'amour est le réel test de l'intimité spirituelle et cela nous fortifie dans notre marche dans la foi. L'amour n'est ni un discours, ni une théorie, c'est un acte. Lorsque l'amour de Dieu est là en premier, tout le reste suit. Faites-en l'expérience. Et puis l'amour se plaît à oublier le mal. Les personnes qui aiment ne gardent pas des traces écrites de tous les torts que les autres ont pu leur faire. La liberté de ne pas conserver le souvenir des offenses subies est vitale pour l'amour. Il est impossible de vivre heureux avec les autres chrétiens dans l'assemblée locale sans cette qualité d'amour, c'est-à-dire l'amour qui se plaît à oublier le mal. L'amour est la force qui rend possible la réconciliation. En nous engageant sur la voie par excellence, nous nous efforçons par la puissance et l'aide du Saint-Esprit en nous à gérer honnêtement nos blessures émotionnelles. Nous voyons les choses sous l'angle de Dieu. David pleura à la mort de Saül, nous dit 2 Samuel 1:12. Luc 23, verset 34, à la croix, Jésus dit, « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en acte 7, 60, Étienne lapidé dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Dans tous ces contextes, nous voyons le pouvoir de l'amour. La vie conforme à la voie par excellence ne tient pas un journal des injustices subies et des blessures émotionnelles reçues. L'amour est généreux dans sa capacité d'oublier. Qui marche selon l'amour, marche sur la voie par excellence, s'attachant fortement au bien. S'il doit exposer ou condamner un comportement coupable, le chrétien rempli d'amour marchera sous les traces de Job et de David. Pourquoi ? Parce que Job a pu déclarer en toute sincérité qu'il n'avait pas été joyeux du malheur de son ennemi, qu'il n'a pas sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. David, lui, n'éprouvait aucune joie à triompher de son ennemi Saül. Il refusa de se réjouir des occasions qui se présentaient de le tuer. Et il en a eu. À plusieurs occasions, il épargna sa vie. Et même Saül ne comprit jamais l'amour remarquable de David pour lui et pour sa famille. Lisez 1 Samuel chapitre 24. L'amour le plus grand, la plus grande chose au monde. On considère parfois à tort que les personnes aimantes sont faibles et molles. Jésus fut le plus aimant sur la terre et il n'était certainement pas faible. Il a donné sa vie pour sauver les autres, pour nous sauver. L'amour de Paul pour les Corinthiens, malgré tous les soucis qu'il lui occasionnait, témoigne d'une grande force et d'une remarquable constance et non de faiblesse. Il n'a jamais abandonné les Corinthiens qui le décevaient tant. Les personnes aimantes ne sont pas faibles et molles. L'amour fait confiance à Dieu et à sa parole. C'est l'amour qui fait la différence sur la manière de considérer et de réagir face aux gens et aux situations difficiles. L'amour véritable ne périt jamais. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Le ciel sera une demeure à jamais remplie d'amour. Retenez ceci, quand les chrétiens s'aiment les uns les autres comme Jésus les a aimés, la famille de l'Église locale préfigure la gloire de notre existence céleste future. Je ne sais pas si vous l'avez retenu. Quand les chrétiens s'aiment les uns les autres comme Jésus les a aimés, la famille de l'Église locale préfigure la gloire de notre existence céleste. Méditez là-dessus. Tous les chrétiens ne possèdent nécessairement pas plusieurs dons, mais nous devons tous nous caractériser par l'amour. C'est essentiel à la vie chrétienne et au développement de l'assemblée locale. De la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande, c'est l'amour. Ne rabaissons pas les autres, ne nous vantons pas de ce que nous accomplissons, ne nous estimons pas supérieurs aux autres. Soyons des serviteurs qui édifient les autres. Rappelons-nous constamment que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ensuite, les œuvres expriment l'amour, ou alors nos œuvres. Prenez-le comme vous le voyez. Nos œuvres expriment l'amour. Et pour cela, notons deux expressions. Deux expressions de Paul en Philippiens 1 et versets 7 et 8. J'ai pu noter ces deux expressions. Je vous porte dans mon cœur, disait Paul. Et la deuxième expression, je vous chéris tous de la tendresse de Jésus-Christ. Une chose est sûre, c'est que l'amour doit s'exprimer et l'amour ne peut jamais être silencieux. Les gens aimants sont remplis de gratitude et ils l'expriment ouvertement. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, témoigne souvent de son amour profond par l'usage de termes de tendresse. Il désigne ses lecteurs par « bien-aimé » à maintes reprises, un terme qui est riche d'intimité et d'affection et d'amour. N'hésitez pas à utiliser des termes d'affection dans la famille de Dieu pour faire connaître la réalité des liens que nous entretenons les uns avec les autres. Nous pouvons d'ailleurs souligner une quantité de versets qui révèlent le cœur aimant et affectueux de Paul. Il y a beaucoup de références en romain, en philippien, en thessalonicien, en galate et même en philémon. Et je ne peux pas vous les citer tous, mais au moins noter qu'il y a des expressions comme « je vous ai dit comme bien-aimé » et « je vous porte dans mon cœur » mais aussi « vous m'êtes cher ». Il dit « vous êtes dans mon cœur ». À la vie et à la mort. C'est fort. Vous êtes dans mon cœur à la vie et à la mort. Est-ce que vous pouvez dire ça à quelqu'un ce matin? Vous êtes dans mon cœur à la vie et à la mort. Il dit, mon cœur s'est élargi pour vous. Hein? Des expressions comme ça. J'ai des références. Enfin, je vais le donner quand même. Si quelqu'un veut le noter sur un stylo, vous pouvez réviser toutes ces belles expressions qui démontrent l'amour que nous pouvons même nous-mêmes nous pratiquer et utiliser, voilà. Donc, j'ai trouvé toutes ces références, c'est pas tout ce que Paul a dit, mais en majeure partie, il y avait Romains 16, verset 9, il y avait Philippiens 1, 7 et 8, et Philippiens 4, verset 1, un Thessaloniciens 2, verset 8, il y avait Galates 4, verset 19 et 20, il y a Corinthiens 1, Corinthiens 16, verset 24, il y a 2 Corinthiens 6, verset 11, et c'est 2 Corinthiens 7, verset 3, 2 Corinthiens 11, verset 11, il y a 2 Corinthiens 12, verset 14 et 15, il y a 1 Thessaloniciens 3, verset 12, il y a Philémon, verset 12. Dans tout ça, vous allez trouver toutes les expressions, les termes d'affection qu'a utilisé Paul pour ces chrétiens qu'il aimait tant. L'église locale, donc, est la maison de Dieu et devrait toujours déborder de mots d'amour pour démontrer l'affection familiale. L'Assemblée doit représenter ceux qui gardent fidèlement le commandement nouveau. Tous ceux qui fréquentent l'Église doivent connaître les exigences de l'amour agapé, l'amour biblique, l'amour de Dieu. Encouragez les frères et sœurs à croître dans l'amour, soyez des modèles d'amour. C'est ainsi que nous ressemblerons de plus en plus à notre Seigneur. L'amour va au-devant des autres. Quel que soit notre ministère, il ne sera efficace que si les gens savent que nous nous intéressons à eux. L'amour chrétien n'est jamais théorique ou abstrait, il est toujours pratique. Celui qui aime se sent toujours poussé à agir pour soulager la souffrance de celui qu'il aime. L'amour cherche toujours à répondre aux besoins des bien-aimés. Il nous met au service d'eux et non au-dessus d'eux comme des chefs. Quel que soit notre ministère, nous devons abonder toujours plus en amour si nous voulons accomplir un travail fécond. Sinon, nous n'accomplirons pas grand-chose. En conclusion, l'amour est puissant. Alors, comment aimez-vous ce matin ? Aimez-vous en fonction de ce que l'autre vous renvoie ou au-delà? En fonction de ce qu'il est ou de ce qu'il fait? Demandez à Dieu de vous conduire sur le chemin de l'amour jour après jour. Dites-lui que vous voulez le prendre pour modèle. C'est notre relation avec Dieu qui produit en nous le miracle de l'amour. Alors, si vous êtes convaincu que l'amour de Dieu est la solution aux problèmes relationnels, décidez dès aujourd'hui de l'expérimenter de manière nouvelle. Reconsidérons nos relations avec les frères et sœurs que Dieu a mis autour de nous. Prenons la chose à cœur. Car lorsque l'amour règne parmi les chrétiens, c'est déjà un peu de ciel sur la terre. Demandons donc au Seigneur de nous montrer comment manifester concrètement notre amour pour les frères et sœurs et remercions-le pour chacun d'eux. Il est facile d'apercevoir la poussière d'amour dans l'œil du prochain et de ne pas voir l'apôtre de l'égocentrisme, de l'hypocrisie et de la colère dans le sien. Efforçons-nous d'être pour les autres un bon exemple de l'amour conforme à la voie par excellence. Et si une situation nous exige à reprendre un membre pour manque d'amour, nous aurons la crédibilité et le tact de le faire en proclamant la vérité dans l'amour. Nous sommes membres les uns des autres. Personne n'a jamais haï son propre corps, mais il l'a nourri et en prend soin. À tous, je dis, faisons attention à l'amour, la sainte charité, la voie par excellence, car sans amour, nous ne serons rien d'autre qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Prenez la chose à cœur.